Bonjour et merci de nous être fidèles tous les week-ends. Nouveau générique pour l'émission, mais vos rendez-vous du samedi avec au sommaire du grand face-à-face jusqu'à 13h, la semaine des humoristes, le duel Natacha Polony, Raphaël Glucksmann et puis le débat de la semaine dans une vingtaine de minutes avec notre invité. Il est géographe, essayiste, sans doute l'un des intellectuels les plus influents aujourd'hui. Ses livres sont lus de près par les politiques de l'extrême droite jusqu'à la gauche et on lui doit notamment d'avoir analysé ce lien entre le vote Front National et les l'éloignement des grandes métropoles, la vie dans la France périphérique et la relégation des classes populaires. Il poursuit son analyse de la dynamique populiste en France, mais aussi dans les pays occidentaux, et ce qu'il décrit comme la panique des bourgeoisies dans un essai qui vient de paraître, No Society. Christophe Guy, lui, nous rejoindra dans quelques minutes.
France Inter, le grand face-à-face. Ali Badou.
Bonjour Natacha.
Bonjour.
Bonjour Raphaël.
Bonjour.
Vous êtes splendide en couverture du magazine L'Obs cette semaine. Beau, rayonnant.
Mais oui, merveilleux, avec Jean-Pierre Le Goff en débat.
Quasiment souriant.
Ouais, ça m'arrive de temps en temps.
Vous faites partie des Français qui se plaignent ?
Constamment, mais je pense que là, s'il se coltine les Français qui se plaignent, il va avoir 99% de la population contre lui, c'est quand même notre grande tradition nationale.
Voir 99...
Mais se plaindre n'empêche pas de sourire.
C'est vrai.
Et puis il y a une différence entre se plaindre et exprimer sa colère. Je pense qu'il confond un petit peu les deux.
On va en parler évidemment et avant de revenir avec vous sur l'actualité, la semaine vue par les humoristes de France Inter est mise en ondes par François Audouin. Et cette semaine, c'est évidemment le feuilleton Gérard Collomb qui a dominé l'actualité, feuilleton qui a passionné Daniel Morin.
Emmanuel !
Oui ?
Je vais partir !
Oui, bonne idée, va faire un tour, faut faire du bien à tes formes.
Non ! Je vais partir pour nouveau ! Pour toujours !
Quoi ? Tu me larques ?
Oui ! Je pars !
Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal ?
C'est pas toi ! C'est moi !
Il y a quelqu'un d'autre, c'est ça ?
Tu pars en Espagne avec Manuel Valls ?
Non !
Si ! Tu vas aller faire le coup à Barcelone ! Ça fait que tu kiffes le flamenco !
Non !
Je te jure, je rentre à Lyon. Voilà ma laine de démission. Non !
Mais pourquoi Gérard Collomb a-t-il démissionné ? Tanguy Pastureau a trouvé quelques éléments de réponse.
Place Beauvau, toute la journée, on parle d'attentats, d'islamisme, de l'album de Zouk, d'Evangélie, des menaces qui pèsent sur nous. À un moment, si on se détend pas, on fait un burn-out. Et en plus des jeunes idiots là qu'il traitait de papy confiture alors qu'il a 71 ans. Il est pas en fin de vie dans un EHPAD à regarder TPMP pour Isabelle Morini-Bosque. On apprend que Brigitte ne lui adressait plus la parole depuis 2 mois. Elle était fâchée. Mais Collomb est un mec sensible et cette ambiance pourrie qui est la même que dans une start-up, hein. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est cool parce que les gonzes jouent au baby-foot à la pause, alors qu'en fait ils rêvent de vous trucider avec la barre des attaquants, et ben Collomb n'a pas supporté.
Mardi, Emmanuel Macron refusait la démission du ministre de l'Intérieur. Opération sauvetage de Gérard Collomb dans le 7-9 avec Charline Vanhoenacker.
On n'a jamais vu ça. Un ministre de l'Intérieur obligé de négocier lui-même lors de sa propre prise d'otage. Gérard, si tu nous entends, tiens bon, hein, apparemment c'est ok, c'est fait. Enfin, on est en train de vérifier quand même pour être sûr. On est tous derrière toi, Gérard. Mais on t'avait dit de pas procéder comme ça. Regarde Nicolas Hulot, il a fait ça ici. Il avait prévenu personne, ça s'est réglé dans la seconde. Écoute, GG, là je suis avec Léa et Nicolas. On est prêt à t'accueillir dans la matinale. Hein, Léa, on accueille Gérard, hein, on l'accueille. Hein. Si tu démarres de la place Beauvau maintenant, tu peux être chez nous en studio dans quoi ? Combien de temps, Nicolas ? Ça roule à cette heure-ci 15 minutes ?
Max,
ouais.
Max.
Ouais,
oui,
bouge pas,
c'est
Gérard.
Jouable.
Bouge pas, on fait un point route. 15 minutes, Gérard, 15 minutes. Viens en trottinette électrique, tu peux prendre les couloirs de bus, tu peux monter sur le trottoir. Collomb démission ! Oh là là, quand je pense que quand on dit ça maintenant, c'est pour t'aider, c'est vraiment fou, hein, c'est fou. Hashtag free Gérard Collomb.
On connaît la suite, il est quand même parti. Une note du service de presse d'En Marche demandait aux parlementaires de ne pas commenter l'actualité du gouvernement. Guillaume Meurice a malgré tout tendu son micro dans les couloirs de l'Assemblée.
Sandra Motin, députée de La République En Marche de l'Isère, qui a bravé les consignes et qui est venue salle des quatre colonnes parler avec des journalistes et qui a accepté de me répondre. Chapeau. Sandra, elle est très contente que Gérard reprenne son poste à la mairie de Lyon.
Tant mieux, ça va lui donner le temps d'amener avec lui une nouvelle génération, parce que c'est aussi ça notre promesse de transformation.
Oui, parce que là, 71 ans, on attend un peu la nouvelle génération.
Mais ça va être un super chef de file.
Et pourquoi il laisse pas sa place directement à quelqu'un de plus jeune ?
Parce que les Lyonnais, ils l'aiment. Et donc, on a envie de le retrouver, lui. Et on aura encore plus confiance dans une nouvelle génération si c'est lui qui a leur tête.
Évidemment, pour renouveler la classe politique, c'est il nous faut des mecs de plus de 70 ans. En Afrique, un vieux qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. En France, un vieux qui meurt, c'est 12 mandats électoraux qui se libèrent. Chacun sa culture.
Et en pleine crise politique, Frédéric Becbédé a donné de précieux conseils au président de la République.
Cassez-vous tous, putain ! Mais vous êtes à bord du Titanic, les gars !
Je voudrais m'adresser solennellement à Emmanuel Macron, maintenant. Il est encore temps d'imiter vos ministres. Monsieur le Président, démissionnez, vous serez culte. L'important, c'est d'avoir été élu. Ça, c'est fait. Et maintenant, vous avez encore la vie devant vous. Il est temps de devenir Barack Obama, donner des conférences aux quatre coins du globe, finir ce roman que vous aviez commencé à Henri IV. Ben oui, et je voterai pour vous au prix Renaudot. Cela dit, si vous tenez à rester, faites comme Chirac. Le moment est venu de dissoudre l'Assemblée nationale. Comme ça, il y aura une élection législative, ce sera la cohabitation, vous vous tournerez les pouces pendant 3 ans, vous redeviendrez populaire et vous serez réélu en 2022. Elle est pas belle la vie ? Merci qui ?
Merci Freddy !
Il vous en prie.
C'était la semaine des humoristes de France Inter. Merci Freddy. C'était un bon conseil que donnait Frédéric Becbédé au président de la République. Gérard Collomb a fait rire, Emmanuel Macron aussi. On va voir s'ils vous ont tous les deux inspiré. Le grand face-à-face continue avec le duel.
France Inter, Natacha Polony, Raphaël Glucksmann, le duel.
Et une question, est-ce que nous sommes face à une crise politique ? La question peut vous sembler absurde, mais écoutez ce qu'on disait au gouvernement. Les éléments de langage étaient visiblement prêt bien avant la démission de Gérard Collomb.
Rien de ce qui se passe depuis 48 heures ne s'apparente à une crise politique. L'État fonctionne, le gouvernement est parfaitement à sa tâche. Ce que nous traversons est lié à des sujets strictement personnels et il a appelé chaque membre du gouvernement à savoir s'élever au-dessus des intérêts particuliers.
Je ne crois pas qu'il faille voir des crises politiques là où il n'y en a pas. Vous savez, les crises politiques, c'est quand une majorité qui a été élue pour faire une réforme, par exemple, renverse un gouvernement. Ça c'est arrivé en 62 pour le président de Gaulle avec Georges Pompidou.
On vient d'entendre le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux et le ministre des Comptes Publics Gérald Darmanin. Pas de crise politique, Natacha ?
Non mais c'est on est dans l'ordre du comique en effet. C'est-à-dire, paradoxalement, c'est parce que ce sujet-là, la démission de Gérard Collomb, ne se fait pas sur un sujet politique qu'il y a crise politique. C'est-à-dire que des démissions de ministres, il y en a eu. Quand Chevènement claque la porte parce qu'il récuse la guerre du Golfe alors qu'il est ministre de la Défense, on a un vrai débat politique. Là, ça n'est absolument pas ça. Et c'est absolument ahurissant de se dire que la police, aujourd'hui, dans l'État où est la France, n'a pas de ministre, parce que c'est pas le Premier ministre qui va réellement faire le boulot.
Il fait l'intérim.
Oui, d'accord. Donc on a bien compris, pardon, mais c'est un boulot à temps plein. Hein. Le ministre de l'Intérieur, ça nécessite quelques... Bon. Et on s'aperçoit donc qu'il y a une espèce de déliquescence où finalement les intérêts privés, les fâcheries, les réactions à une affaire Benalla qui est devenue totalement délétère et qui semble détruire toutes les relations du président de la République avec ceux qui lui sont fidèles, on a l'impression que tout ça est en train d'abîmer ce qui fait le cœur de la République, de la machine de l'État. En cela, c'est une crise politique absolument inédite.
Mais Raphaël ?
C'est le problème de la post-politique. En fait, on se rend compte, et c'était clair depuis le début, que les gens qui composaient En Marche et qui sont entrés au gouvernement étaient tenus par leur adhésion à la figure d'Emmanuel Macron, étaient tenus par un leader. C'est comme ça que s'est structuré ce mouvement, qui d'ailleurs porte ses initiales. Et quand le leader semble tout d'un coup plus faible, eh bien on se rend compte que l'absence d'idéologie politique cohérente, l'absence de ligne, l'absence de parti rend les choses extrêmement chaotiques et les rats quittent le navire. Et il y a là une revanche de la politique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas...
Revanche de la politique.
On ne peut pas tenir dans le temps simplement sur l'adhésion à une figure du leader. Et c'est le problème de tous ces nouveaux mouvements. C'est-à-dire que pour la conquête du pouvoir, c'est absolument génial de pouvoir agréger des gens depuis Robert Rue jusqu'aux plus libéraux des commentateurs et des intellectuels et des politiques. Mais en réalité, quand on exerce le pouvoir, il faut avoir une forme de cohérence idéologique. Il faut accepter que la politique, eh bien, ce n'est pas simplement un rassemblement amoureux. Parce que quand l'amour part, eh bien, reste quoi ? Le bordel.
C'est beau. C'est triste, mais c'est beau. C'est pessimiste, mais c'est beau, Natacha.
C'est lucide. C'est lucide. Et ce qui est profondément inquiétant derrière, c'est que nous sommes dans un contexte où tous les chefs d'État et de gouvernement des pays démocratiques, des grands pays démocratiques, sont aujourd'hui affaiblis. Regardez Angela Merkel qui tire sans fin son pouvoir et on va s'apercevoir de son véritable bilan, c'est-à-dire que c'est un bilan totalement nul, qui a creusé la crise en Europe. Theresa May qui est totalement empêtrée dans un Brexit qui, quelles que soient les décisions qui seront prises, sera catastrophique parce qu'il n'a pas été pensé, parce qu'il n'a pas été préparé, parce que ceux qui l'ont voulu n'ont en fait jamais réfléchi à ce qui allait réellement se passer et ceux qui sont en train de, là aussi, pour les punir de prôner le hard Brexit de l'autre côté, ne se rendent pas compte non plus concrètement de ce que ça va poser comme problème. Ne parlons même pas de Donald Trump. Donc nous avons aujourd'hui des politiques qui sont jetables et qui n'ont plus prise sur les événements. Cela signifie
enfin des politiques jetables, quand on ouais. prend le cas de Gérard Collomb, c'est lui-même qui s'est jeté.
Oui, mais je parle d'Emmanuel Macron. Je parle d'Emmanuel Macron qui, au bout d'un an et demi, se retrouve dans une situation totalement délétère où l'on peut se demander exactement en quoi il va peser sur la marche des événements, alors que nous entrons dans une phase d'élection européenne où il faudrait essayer de penser l'Europe, de penser la façon dont nous pouvons retrouver une souveraineté, tout ce genre de choses qui sont des sujets essentiels et qui ne seront pas traités parce qu'on va être à temps plein sur la question de savoir comment on peut sauver les meubles et essayer d'agiter l'épouvantail populiste pour masquer l'absence totale de cohérence idéologique.
Mais Raphaël, mais il y a un contre-exemple à cette évanescence du pouvoir et à ce délitement du pouvoir dans les démocraties occidentales. Et malheureusement pour moi, et puis je pense pour beaucoup d'entre nous, le contre-exemple, il vient d'un bord politique et idéologique qui je juge catastrophique, c'est l'Italie. Aujourd'hui, il y a un leader politique qui s'affirme en Europe, c'est Salvini. C'est lui qui a une idéologie, qui mobilise les masses, qui assoit un pouvoir autoritaire, qui met en prison un maire, qui affirme sa domination sur la scène politique. Et donc là, il y a quand même, à mon avis, une forme d'irresponsabilité chez les leaders occidentaux, qui est qu'ils n'arrivent pas à comprendre que cette période est extrêmement dangereuse. Et que donc, il va falloir assumer une ligne politique cohérente et arrêter, en fait, de penser la vie politique en termes de pure com. Ça marche. Réellement, ça marche quelques mois. Mais ensuite, il faut structurer un mouvement, structurer un parti, construire une ligne politique claire. Et cela, malheureusement, c'est
oui,
parce qu'il est en train de se passer.
Construire une ligne politique claire nécessite de ne pas simplement s'affoler parce qu'il y a des méchants au pouvoir dans un pays, mais d'essayer d'analyser. Regardez par exemple ce qui se passe dans ce bras de fer entre l'Italie et Bruxelles, où l'Italie essaye, à propos du budget, donc Matteo Salvini et Di Maio, en fait, font ce truc ahurissant, c'est-à-dire qu'ils appliquent le programme sur lequel ils ont été élus. C'est un truc de dingue. Et donc, Bruxelles leur explique que ça n'est pas possible, puisqu'évidemment, ça ne rentre pas dans les clous. Cela dit, si vous regardez réellement les chiffres économiques de l'Italie, que ce soit le déficit, que ce soit la façon dont est détenue la dette par les Italiens d'eux-mêmes, donc moins dépendants des marchés, que ce soit le commerce extérieur, l'Italie est un pays qui reste industrialisé, ce que nous ne sommes plus. Eh bien, en fait, le pari budgétaire de Di Maio et Salvini n'est pas si délirant que ça. Et le fait de les montrer du doigt, d'expliquer que c'est le mauvais élève, que c'est catastrophique, qu'ils ne seront plus dans les clous, c'est de l'idéologie pure. Donc tant qu'on répondra à de la politique par de l'idéologie pure, en faussant les réalités, eh bien on fera Matteo Salvini et Di Maio.
Là vous parlez du budget, mais la popularité de Matteo Salvini, elle repose absolument pas sur son budget. La popularité de Matteo Salvini aujourd'hui en Italie, elle repose sur un sujet monothématique, qui est d'exciter les foules italiennes contre l'arrivée des migrants.
C'est pour ça qu'il y a le mouvement 5 étoiles aussi dans ce gouvernement.
C'est ça qui fait sa force et c'est pour ça que le mouvement 5 étoiles est en train de se faire complètement dévorer par la Ligue et que si vous prenez aujourd'hui les sondages, les rapports de force sont complètement inversés dans cette coalition parce que ce qui est le moteur, c'est une idéologie d'extrême droite. Donc je veux bien qu'on désidéologise, et on en discutera tout à l'heure
d'ailleurs. On va y venir avec notre invité Christophe Guilluy tout à l'heure.
Qu'on désidéologise l'extrême droite, mais en réalité, on a quand même un affrontement idéologique à mener et donc il ne s'agit pas de pousser des cris d'orfraie et de chanter la moraline, mais de comprendre qu'il y a un affrontement idéologique à mener.
Le grand face-à-face sur France Inter.
Et un anniversaire, celui de la 5e République, 60 ans ces jours-ci. Écoutez cette archive du général de Gaulle. C'était le 4 septembre 1958, place de la République à Paris, et il présentait le projet de constitution de la 5e République.
Au-dessus des querelles politiques, qu'il existe un arbitre national élus par les citoyens qui ont un mandat public, qui soit chargé d'assurer le fonctionnement régulier des institutions, qu'il existe un gouvernement qui soit fait pour gouverner, à qui on en laisse le temps et la possibilité, qu'il existe un Parlement destiné à représenter la volonté politique de la nation, à voter les lois, à contrôler l'exécutif, mais sans sortir de son rôle. Voilà, Françaises, Français, de quoi s'inspire, en quoi consiste la Constitution qui, le 28 septembre, sera soumise à vos suffrages. Au nom de la France, je vous demande de répondre oui.
Et 60 ans après, jeudi, cette semaine, Emmanuel Macron était à Colombey-les-Deux-Églises.
Ce ne sont pas les péripéties du quotidien qui doivent décider pour une nation. Si on regarde tous les jours les péripéties du quotidien, avec tout ce qui se passe, les sondages, les ceci, les cela, on n'avance plus, on ne fait plus rien. La force de cette Constitution, c'est qu'elle permet d'avancer pour qu'ils décident d'expliquer aux Français quand ils l'ont choisi. Et elle permet d'éviter la tyrannie de l'immédiateté, qui est une absurdité contemporaine.
Natacha, 60 ans, c'est bientôt l'âge de la retraite ou c'est au contraire le signe de la maturité, de la solidité ?
Non, je pense qu'on s'est arrangé pour abîmer et faire agoniser cette Ve République, qui a une cohérence, qui est celle expliquée par De Gaulle, et qui repose, il le dit, sur le fait de laisser le temps de gouverner et de s'appuyer sur la volonté politique de la nation, et donc du peuple. C'est-à-dire qu'il y a au cœur de cette souveraineté, le concept de, au cœur de cette Constitution, le concept de souveraineté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de démocratie sans souveraineté nationale et souveraineté du peuple. Donc c'est ça le cœur de la Ve République. Or, les institutions, pour cela, ont été pensées comme solides. Aujourd'hui, cette solidité s'est retournée contre le peuple. Et c'est
comment
cela qui est très dangereux. Bien, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la solidité des institutions permet à un pouvoir délégitimé, à un pouvoir qui n'incarne plus la volonté politique de la nation, de se maintenir à peu près en replâtrant. Et les différentes distorsions qui ont eu lieu à travers le passage au quinquennat, à travers les pratiques gouvernementales, l'inversion du calendrier, tout ça ne fait que permettre de solidifier, d'ossifier cela. Pourquoi ? Eh bien parce qu'en fait, nous avons petit à petit des gouvernants qui ont décidé eux-mêmes de renoncer à cette souveraineté, qui ont décidé d'appliquer, de ne pas appliquer la politique qui leur dictait le peuple, mais d'appliquer la politique que leur dictaient des grands intérêts et des idéologies.
Toutes.
Et donc, les institutions ne servent plus à traduire la volonté du peuple.
Toutes les républiques et les démocraties sont censées reposer sur la souveraineté du peuple. Le problème de cette Ve République, c'est que dès l'origine, contrairement à ce que dit d'ailleurs Emmanuel Macron dans sa phrase, c'est une république de circonstances. C'est une réponse à une circonstance historique donnée, taillée sur mesure pour un personnage historique donné. Et contrairement, par exemple, à la Constitution américaine, qui est le projet d'une collectivité pour s'inscrire dans un temps extrêmement long, la Ve République, c'est une réponse à l'immédiateté, justement. À l'immédiateté de la crise qui a permis le retour au pouvoir du général de Gaulle. Et donc, depuis ce moment-là, depuis la création de la Ve République et la disparition du général de Gaulle, eh bien, on sent que les institutions sont inadaptées. Elles sont inadaptées pour les autres personnages que le général de Gaulle. Et donc, il y a eu comme ça cette tentative permanente de la réformer.
On peut dire au contraire qu'elle a été suffisamment plastique, cette constitution.
Elle a été suffisamment plastique pour créer
à chaque fois,
toutes les fins de règne des présidents de la République sont des moments de morosité, de frustration, de colère, où les gens en veulent à mort au roi, pour une raison très simple. C'est que, une fois qu'on vote dans la Ve République, eh bien, pendant 7 ans auparavant, 5 ans, parce qu'on a senti que c'était compliqué à gérer, eh bien, on n'a plus le droit à la parole. C'est une république, fondamentalement, qui ressemble à une monarchie élective. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, au début, il y a une forme d'enthousiasme, puisqu'on est extrêmement content d'avoir un nouveau prince qui a les moyens d'agir. Mais très vite, on se rend compte qu'une société, c'est complexe, qu'il y a des contradictions, qu'il y a des débats. et ces débats, ils trouvent pas de débouchés.
Natacha.
Je ne verrais pas tout à fait les choses comme ça. D'abord, la Ve République n'est pas née de circonstances historiques, puisqu'elle a été pensée par De Gaulle avant la simple circonstance de son retour au pouvoir. En revanche, là où je suis d'accord, elle a été pensée pour un homme, qui est le général De Gaulle, qui avait une vision historique de ce qu'était la France et de ce qu'elle devait continuer d'être. Et c'est là la grande différence. C'est-à-dire que De Gaulle a conçu cette constitution pour des présidents de la République qui choisiraient de présider. Or, ça n'a plus été le cas après lui, et en particulier à partir de Valéry Giscard d'Estaing, qui a été le premier à expliquer que comme la France pesait 1% de la population mondiale, finalement, elle ne devait pas peser plus sur la marche du monde que 1%. Et à partir de là, on a des présidents qui renoncent. Donc, ils sont de faux monarques. Ils sont des monarques qui n'ont aucune possibilité de changer les choses. Le principe de cette République, c'est tout de même que le président est l'émanation de la volonté du peuple et que ses décisions vont changer la vie des gens. À partir du moment où vous décidez qu'il y a des instances extérieures, qu'il y a des marchés qui ont prise, à partir du moment où vous décidez par exemple que la dette est détenue par ces marchés, vous n'avez plus aucune prise sur
donc
les événements.
Donc vous ne critiquez pas le présidentialisme comme par exemple pourrait le faire...
Je pense qu'il n'est plus adapté aujourd'hui. Justement parce qu'on a fait en sorte qu'il ne serve plus à rien, qu'il soit vidé de sa substance.
Mais c'est plutôt une bonne nouvelle que le président ne fait pas tout ce qu'il veut.
Une constitution, c'est fait pour supporter la médiocrité des gens qui prennent le pouvoir. C'est-à-dire que il y a des présidents américains, on en a quand même le témoignage aujourd'hui, extrêmement médiocres par moment. Eh bien, la Constitution, on va pas la changer parce que le président est médiocre, parce qu'elle est pensée pour pouvoir supporter la médiocrité. Le problème de la Ve République, c'est que De Gaulle, il a fait une constitution en pensant qu'il y aurait De Gaulle qui occuperait le poste de président. Alors quand il n'y a plus De Gaulle, eh bien on se rend compte qu'elle est inadaptée, mais elle est pas, c'est pas simplement le problème de l'époque ou du temps, c'est le problème d'une pensée qui croit qu'on peut dupliquer le même homme à l'infini.
Mais Raphaël, les Américains n'ont pas renoncé à leur souveraineté, et c'est toute la différence.
Mais écoutez, l'Allemagne a une constitution et l'Allemagne ne parle pas de changer sa constitution tous les 15 jours. Donc et pareil pour le Danemark, pareil pour la Suède, pareil pour la Hollande. Donc il y a bien un problème français, c'est qu'en fait on a fait une constitution qui ne correspond plus aux aspirations démocratiques et aux aspirations au débat de la population. On peut pas dire j'incarne votre volonté à un temps T et ensuite pendant 7 ans désormais 5, je n'ai même plus besoin de vous consulter. J'ai
mais
même
c'est
plus
le principe d'un mandat électif.
Mais Raphaël,
pas contradictoire ce mandat électif. Une assemblée, Ali, une assemblée, c'est des forces qui débattent, qui discutent, qui évoluent. Là, c'est un homme qui est censé épouser l'air du temps.
Je crois que vous diagnostiquez mal le problème, parce que ce qui, aujourd'hui, désespère les citoyens et les détourne de ce fameux monarque, ce n'est pas le fait que pendant 5 ans, il ne les consulte plus, même si je pense qu'en effet, il faut réinsuffler une démocratie plus vivante. Ce qui les désespère, c'est que pendant 5 ans, il ne fait pas ce pour quoi il a été élu, ou ce que traduisaient les aspirations du peuple.
Emmanuel Macron, il applique son programme, les gens sont frustrés.
Pardon, là vous savez très bien, et on en a suffisamment débattu ici, qu'Emmanuel Macron n'a pas été élu pour son programme, mais parce qu'il avait en face de lui Marine Le Pen.
Et donc la Ve République lui donne tous les pouvoirs.
Donc la Ve République, et c'est bien pour ça que je dis qu'elle pose problème aujourd'hui, lui donne tous les pouvoirs. C'est pour ça que je ne défends pas la Ve République aujourd'hui. Je vous explique seulement
que la distorsion est née de l'abandon de souveraineté. Parce qu'on voit bien aujourd'hui que le président ne fait pas ce qu'il veut, que le césarisme a des limites.
Il ne fait pas ce qu'il veut parce qu'il adhère à une idéologie qui est celle du libre-échange, qui est celle de la dérégulation, qui le prive du minimum de pouvoir qu'il pourrait avoir. Il a décidé d'être impuissant.
De cette adhésion et sur la décision d'être impuissant, mais simplement, il y a un problème avec les institutions. Là, on parle de la Ve République, et ce problème, c'est qu'en fait, quelqu'un qui est élu par 24% de la population peut croire qu'il incarne la France pendant 5 ans.
Au premier tour.
Oui, au premier tour. Mais ça veut dire que les gens qui adhèrent à son projet, c'est cela. Et ensuite, il y a un pouvoir exorbitant. Il y a un autre problème. C'est... On parle aujourd'hui de Matteo Salvini en Italie, par exemple. Mais imaginez que quelqu'un avec une idéologie antidémocratique prenne le pouvoir dans le cadre des institutions de la Ve République. C'est pour ça que cette constitution est mal pensée. C'est qu'en réalité, une constitution doit nous protéger des diables.
Non mais,
quel diable prend le pouvoir en France, eh bien, je vous garantis que ça sera plus compliqué
pour avoir des checks and balances qu'aux États-Unis. Si Emmanuel Macron ne fait que 24% au premier tour, et encore c'est beaucoup moins sur les inscrits, aux législatives 14,5% des inscrits, c'est bien parce qu'il y a des gens qui se sont désaffiliés de la démocratie, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui ne votent plus, qu'en général ce sont les classes populaires, parce qu'on a rétabli une forme de suffrage censitaire, sans le dire. Pourquoi? Parce que les politiques ne jouent pas leur rôle de protection des classes populaires et des classes moyennes. Donc c'est derrière. Ce n'est pas seulement le problème des institutions. Oui, mais ces institutions ne fonctionnent plus parce qu'elles sont tenues par des hommes qui adhèrent à une idéologie qui, de toute façon, s'assied sur les institutions, se fout de la volonté populaire.
On répond sur les institutions.
Non, parce que c'est lié.
Pour clore ce chapitre-là, vous souhaiteriez une 6e République, Natacha ?
Ça ne veut rien dire, une 6e République. Quelle 6e République ? La 6e République qui ressemblerait à la 4e ou une 6e République qui inventerait un nouveau rapport entre le président, le Parlement ? Ça ne veut rien dire. 6e République en soi, ça ne marche pas. La 5e République a atteint ses limites, elle ne fonctionne plus. Mais c'est l'ensemble de la position des gouvernants français vis-à-vis de toutes les institutions européennes, internationales, qu'il faut repenser pour pouvoir avoir une constitution correcte.
Raphaël ?
Vous voulez que le peuple soit à nouveau entendu, il faut donc que les institutions lui permettent de participer plus activement au gouvernement. Donc oui, il faut un changement de République. Moi, je ne suis pas un fétichiste du nombre ou un fétichiste du nom, mais il va falloir un changement dans les institutions, car contrairement à ce qu'on dit, c'est que les institutions sont importantes. Ça ne suffira pas,
mais
si on veut que la démocratie progresse en France, il va bien falloir le traduire de manière institutionnelle à un moment donné.
Non, mais ça, on est d'accord, mais ça ne suffira pas.
Ça ne suffira pas.